Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La mort, s'il y a bien un sujet dont on ne veut guère parler, c'est celui-là. Vertige métaphysique, angoisse existentielle. Tout le monde fait face un jour à la mort, mais elle laisse souvent assez démunis. Quelles sont les conceptions de la mort dans lesquelles nous vivons? En quoi influence-t-elle notre manière de voir la vie? Alors on nous parle de légaliser l'euthanasie, il est urgent de redécouvrir que la mort nous rend humains, dirait probablement mon invité de ce matin. Explication. Une émission Vivante Église ce matin donc sur le thème de la mort. La mort a-t-elle du sens? Avec Bernard Ibal, agrégé, docteur en philosophie et président des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Difficile donc sujet que celui-ci, surtout en essayant de rendre le sujet accessible à tout le monde, mais vous faites partie des invités qui sont suffisamment, on va dire, doués probablement pour arriver à nous conduire dans cette émission qui se veut un peu...
On va voir.
Voilà, une balade philosophique, je ne sais pas, ou existentielle. Vous vouliez commencer cette émission en rappelant ou en essayant de montrer comme la loi a du mal à dire ce qu'est la mort. Alors il faut regarder le code de la santé, article R1232.1. Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents: absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. Ça paraît un peu technique comme entrée en matière, mais vous y voyez en fait une manière de montrer, enfin pour vous c'est une manière de montrer qu'en fait on n'arrive pas trop, on vit dans un monde, on n'arrive pas trop à dire ce qu'est la mort. Ai-je bien compris,
oui,
Bernard Ibal?
Oui, la mort est sous le signe de l'ambiguïté. Pas simplement la mort médicale, mais justement la mort médicale donne le là, hein, donne le là de cette ambiguïté. Mais quelle que soit la problématique de la mort, quelle que soit la façon dont on entre dans le sujet, on se heurte à l'ambiguïté. Et vous avez bien fait de citer le code la loi, hein, qui concerne la mort et qui est dans le code de la santé publique. Il y a l'article suivant qui est encore, j'allais dire, pire. Hein,
plus corroboratif, oui.
Parce qu'il explique celui que vous avez lu. Il est recouru pour attester du caractère, c'est écrit tellement petit, irréversible de la destruction encéphalique, premièrement, soit à deux électroencéphalogrammes nuls, et à réactif effectué à un intervalle minimal de 4 heures. Je ne vais pas plus loin parce qu'il y a encore trois autres paramètres. Sans exagérer, il faut une journée pour le constat légal de la mort. Autant vous dire que ça se fait presque jamais. Hein, et ça montre bien que au départ, ce qui était essentiel, c'était la respiration, il y a encore un peu plus d'un siècle. On mettait un miroir devant le nez, on regardait s'il y avait de la vapeur. Et puis, ça a été ensuite l'arrêt cardiaque qui sanctionnait la mort. Et puis, maintenant, on en est à l'arrêt cérébral, à tel point que le fait que le cœur continue à battre n'est pas signe de vie. On est légalement mort quand le cerveau correspond au test dont on parlait à l'instant.
Jusqu'à se retrouver dans des situations, vous me disiez ça en préparant l'émission, extrême, en fait, où on continue à faire battre le cœur pour prélever les organes alors que la personne est déclarée morte.
Effectivement. Alors là, on s'acharne, alors que légalement la personne est morte, on s'acharne à laisser le cœur battre pour se donner le temps de prélever comme il se doit, comme il faut, les organes qu'on veut donner à d'autres personnes.
Mais plus largement, qu'est-ce que vous y voyez en fait? Vous y voyez un quoi? Un flou autour de la mort ou...
Alors, il y a un flou autour de la mort. Je veux passer maintenant au flou essentiel que l'opinion publique partage. C'est le flou entre l'arrêt de l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. L'euthanasie, c'est vouloir volontairement la mort et, par exemple, dans un hôpital, parce que la personne souffre, là, on arrête tous les appareils. Et la personne décède. Ça peut être une euthanasie. Et là, c'est pour l'instant qu'on en est par la loi. Quand on veut éviter l'acharnement thérapeutique, et la loi, comme l'opinion publique, est d'accord, comme l'Église d'ailleurs, pour ne pas mettre en œuvre un acharnement thérapeutique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête les appareils aussi. Et où est alors la limite scientifique entre ce qui est une euthanasie, là, et ce qui est l'acharnement thérapeutique? Donc on voit bien que tout est dominé par cette ambiguïté. Et que pourtant la mort est un acte essentiel de la vie. Tout le monde y passe, et pourtant c'est très important, j'allais dire grave, pas forcément, mais important. Grave alors au sens latin, lourd, un acte lourd. Mais on ne sait pas trop ce que c'est, quoi.
En tout cas, il y a, à vous entendre, comme un paradoxe. Au moment où on voudrait mettre presque la main sur la mort, en fait, on continue à avoir du mal à la définir ou à la saisir.
Exactement.
On s'est dit que dans cette première partie de l'émission, vous allez essayer de nous aider à voir dans quel bain philosophique nous baignons. Quelles sont les philosophies, en fait, qui traversent notre société, peut-être les principales, et qui influencent en partie notre manière d'envisager la mort. Le premier, vous vouliez nous parler du philosophe Heidegger, donc philosophe allemand, donc de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a, alors je vais essayer de le résumer très grossièrement et puis après je vais vous laisser développer, qui parle de l'être pour la mort. J'y ai vu comme une manière de rejoindre un peu la question existentielle courante, sans vouloir dévaluer la pensée d'Heidegger. C'est-à-dire que nous sommes donc des êtres pour la fin étant la mort, des êtres qui doivent mourir, mais on essaierait, selon Heidegger, d'échapper sans cesse à cette réalité et de la regarder et de l'assumer changerait le destin de la vie.
On peut le dire comme ça. Heidegger est réputé être... la plupart du temps, le plus grand philosophe du XXe siècle, malgré son caractère sulfureux, c'est-à-dire son appartenance au nazisme jusqu'au bout. Et effectivement, il définit, définir c'est un bien grand mot, parce que pour lui, l'homme n'a pas de définition. Mais il pense que il y a une finitude de l'être humain, et que l'être humain est essentiellement un être pour la mort. On a la difficulté à employer des mots, parce qu'il emploie, lui, des mots à part. Et quand je dis, par exemple, essentiellement, pour lui, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas d'essence non plus. Je suis bien obligé de parler comme...
Oui, merci à vous. De parler comme nous.
De parler, voilà. Et pour lui, l'être pour la mort, c'est le Dasein, en allemand. Et Dasein, étymologiquement, mot pour mot, quoi, ça veut dire être là. Sein, être da, là. Le Dasein, l'être là. Et le français le plus proche de ça, c'est dépouille, la dépouille mortelle, la dépouille. C'est-à-dire que l'homme est dépouillé. Et la mort nous fait rencontrer la vérité de l'homme. Parce qu'on se la voile sans cesse en se faisant le cinéma, le scénario de celui qui a un sens parce qu'il est médecin, parce qu'il est professeur, parce qu'il est journaliste, parce qu'il dit « ça a un sens ma vie quand même, je fais quelque... » Oui, ça a un sens dans le monde des essences justement, mais ça n'a pas de sens au niveau de l'existence. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Et la mort me met en face de cette question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, et me met dans l'angoisse. Mais cette angoisse n'est pas négative, parce que elle me met devant l'authenticité de l'être et l'authenticité de l'être humain.
Alors cette pensée donc traverse notre société actuelle. Je ne sais pas comment vous qualifieriez cette influence au sein de notre société. Est-ce que quelque part c'est la manière dominante d'envisager la mort aujourd'hui?
C'est il y a parfois même des manières très populaires qui rejoignent la grande philosophie. Hein. Quand on dit par exemple les linceuls n'ont pas de poche. C'est assez comique pour exprimer que c'est pas la peine d'amasser des richesses.
Oui, Michel Dagra, qui venait de temps en temps à cette antenne, qui est décédé cet été, disait « on n'a jamais vu un coffre-fort courir derrière un corbillard
». Voilà, mais ça fait partie. Et puis, à quoi sert d'être le plus riche du cimetière? C'est encore un des trucs qu'on entend. Heidegger l'exprime, lui, de façon métaphysique. Et effectivement, plus profondément que ce qu'on vient d'en dire, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que la vérité de l'être n'est pas dans l'apparaître de sa fonction, de son rôle, de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Sa vérité est dans la prise de conscience du non-sens de l'existence. Ce ne sera pas la conclusion chrétienne, mais c'est en tout cas la conclusion de Heidegger au début de sa carrière philosophique, hein, parce qu'à la fin de sa carrière philosophique, il tend vers une conception du sacré de l'être.
Alors, je vois le temps qui passe, et on s'est dit quand même qu'on allait essayer d'aborder peut-être les grandes influences. La deuxième que vous vouliez citer, donc, c'est Friedrich Nietzsche. C'est pareil, je vais la présenter probablement un peu grossièrement. J'ai cru comprendre que Friedrich Nietzsche, en fait, envisageait d'abord la mort par rapport à la vie, ce qui traversait en partie toute son œuvre, laissant entendre en même temps qu'il y a une forme d'absurdité dans la mort et qu'il faudrait en fait quelque part surmonter l'absurdité de cette mort en arrivant à plus vivre ou à vivre encore davantage. Est-ce que c'est une bonne manière d'introduire, ou en tout cas qu'est-ce que vous nous diriez de plus? Évidemment, comment ne pas penser, c'est en tout cas souvent l'idée qu'on s'en fait, à ce qu'on appelle donc la volonté de puissance, enfin de toute puissance de Friedrich Nietzsche, c'est-à-dire aller au-delà de l'absurde et du nihilisme en investissant la vie, on va dire, de toutes ses forces.
Oui, dans Le Gai Savoir, c'est un livre de Nietzsche, Nietzsche a cette formule « vivez dangereusement ». La phrase exacte, c'est « vivez dangereusement, envoyez vos vaisseaux sur les mers inexplorées, soyez brigands et conquérants, vous qui cherchez la connaissance ». C'est-à-dire que Nietzsche nous dit, la différence de tous les autres philosophes, hein, il nous dit « ne cherchez pas à vous préserver, à vous sauvegarder, voire à penser à un au-delà, mais trouvez le bonheur, non pas dans cette sauvegarde, mais trouvez le bonheur dans le risque ». Dans le risque de la mort, non pas la peur du risque, mais le goût du risque. Et vous allez vaincre la mort parce que vous allez dépasser cette peur de la mort, et vous allez même vivre l'expression totale de vous-même, le don éperdu de vous-même à l'action, j'allais dire au frisson du flirt avec la mort, quoi. Et c'est pas forcément une idée courante aujourd'hui, elle sera reprise pourtant par beaucoup d'auteurs contemporains comme Malraux dans Les Conquérants. Mais puisque je parle de Malraux, juste un autre aspect de Malraux qui me vient à l'esprit et qui penche cette fois-ci vers la foi, alors que c'est un athée, c'est lui, chef de résistance. Dans le coin d'ailleurs, hein, dans le coin de Toulouse, un jour ses deux fils tués dans un accident de voiture. Il appelle son très très bon ami, l'aumônier de son maquis de l'époque, et il lui dit « Viens, mes deux fils sont morts, viens les enterrer ». Et l'autre, un peu gêné, lui dit « Bien sûr, je vais venir, je suis un ami, je viens ». Mais je comprends pas, là. Tu es athée. La réponse de Malraux, c'est on ne va quand même pas les enterrer comme des chiens. C'est-à-dire que c'est une idée forte dans l'opinion, là. On peut croire, ne pas croire. Mais au moment de la mort, il faut qu'il y ait autre chose que l'enterrement d'un chien, quoi.
C'est-à-dire qu'on peut, en fait, avoir une forme de nihilisme et en même temps, au moment de la mort,
penser qu'il y a plus que l'homme qui est plus que de l'homme, comme dirait Pascal.
Alors on y reviendra peut-être, hein, parce qu'il y
aura que j'ai évoqué Malraux. Là.
Mais on avance à grands pas. Le dernier philosophe que vous vouliez évoquer, c'est Platon. Si j'ai bien compris aussi, peut-être la manière dont on pourrait résumer le rapport de Platon à la mort, si j'ai bien compris, développé entre autres dans son ouvrage Phédon, alors qu'on va lui donner la mort, en fait il se réjouit de la mort, ça serait comme une entrée en fait dans la pensée pure, une manière de rentrer dans une forme de contemplation, je sais pas le terme qu'il faut utiliser, parce que j'ai cru comprendre qu'il était déiste. En tout cas, une séparation du monde corporel pour entrer dans le monde des idées et donc y trouver une plénitude. Est-ce que vous pourriez expliciter ça?
Oui, non, mais là aussi, c'est à peu près ça. Platon, il n'y a pas de Dieu chez Platon. Il n'y a qu'un seul passage où à un moment il évoque Dieu, mais ce n'est pas essentiel. En revanche, il parle très souvent du divin. Alors Dieu est une personne, le divin n'est pas nécessairement une personne. Et l'idée, c'est qu'il faut passer de ce monde-ci. Pourquoi il ne va pas à ce monde-ci? Parce que tout fout le camp, tout est périssable. Rien ne se maintient. Au monde des idées, qui est le monde de l'immuable, le monde de l'éternel, et par exemple le monde de la beauté en soi. Et donc effectivement, il y a une certaine coupure entre le monde ici-bas et un monde d'en haut. C'est aussi une conception qui traverse de façon plus ou moins bien comprise notre temps. Il y a aussi, chez Platon, une conception de l'immortalité qui, elle, est beaucoup plus courante et bouleverse un peu certaines écoles psychologiques. C'est de dire que on trouve l'immortalité dans la procréation. C'est par mes enfants et les enfants de mes enfants que, en quelque sorte, j'assouvis mon désir d'immortalité. Tout le monde a un peu cette idée. Mais cette idée est très forte parce qu'elle associe intimement sexualité et procréation de façon telle que ça assure l'équilibre de l'homme qui trouve le sens de sa vie et l'immortalité, alors que beaucoup d'écoles de psychologie s'acharnent depuis quelques décennies à séparer la sexualité de la procréation. Donc là, il y a peut-être matière à réflexion. Or, puis il y a plein d'autres conceptions, comme Camus qui pense que la réaction à l'absurdité de la mort, c'est de se révolter, même si ça change rien. Je m'affirme moi-même comme être humain en me révoltant. On a Ionesco qui réagit par la dérision. Il y a aussi les cultures africaines. Enfin, il y a plusieurs façons de réagir face à la mort.
Voilà, en tout cas, merci pour cette balade philosophique qui est claire. On a vu, hein, soit par des dictons, soit par des choses, peut-être que des actes que l'on pose dans sa vie, hein, comme d'avoir des enfants, bref, qui éclaire la manière qu'on a de vivre et puis de penser. Dans la deuxième partie de l'émission, je le dis en teasing, hein, après cette seconde pause musicale, on va justement s'intéresser à la question peut-être de l'euthanasie, enfin peut-être à la question de l'euthanasie qui est dans l'actualité. On nous dit que ça serait pour demain et on finira cette émission sur la conception chrétienne de la mort, laissant place à la vulnérabilité au lieu même comme lieu de manifestation de l'amour.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La mort a-t-elle du sens? C'est donc le thème de cette émission Vivante Église, donc autour de la Toussaint, avec ce matin donc Bernard Ibal, agrégé, docteur en philosophie et président des Semaines Sociales de Toulouse. Comme promis dans cette deuxième partie de l'émission, et peut-être pour développement de ce que vous avez commencé à dire au début de l'émission, quand on a cité donc le Code de la Santé Publique et ce qu'il dit de la mort, et que vous nous avez dit que notre société avait du mal à définir ce qu'est la mort, et ce particulièrement peut-être... Enfin, de manière criante, quand on parle aujourd'hui d'euthanasie ou d'acharnement thérapeutique, j'aimerais qu'on parle donc un peu, on va dire, euthanasie, soins palliatifs, etc. Sujet d'actualité s'il en est, puisque ne serait-ce qu'en janvier dernier, un député de la France Insoumise, Caroline Fiat, avait donné, enfin, lancé une nouvelle proposition de loi, pardon, pour une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté pour toute personne, je cite, atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée. Et je finis de citer quand même parce que l'enjeu est important, ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité. L'euthanasie, c'est donc, on a l'impression que ça va finir de toute façon par être légalisé en France. Quel mot d'introduction vous auriez sur ce thème d'euthanasie? Est-ce que déjà il n'y a pas un piège dans le terme même? Je ne sais pas.
Ah ben oui, parce que l'étymologie est laudative, emphatique. Hein. L'étymologie, c'est la bonne mort. Donc c'est pas négatif. L'étymologie est positive. La bonne mort. Euthanasie. Je suis moins pessimiste que vous. Je suis pas sûr qu'en France, enfin, je suis pas prophète non plus, hein, mais que ça se fasse prochainement. On pense savoir, les journalistes croient savoir que la nouvelle loi que va proposer le président de la République, enfin le gouvernement,
la loi de révision des lois de bioéthique.
Oui, ne propose pas l'euthanasie, continue à interdire l'euthanasie. En revanche, il autorise la PMA, mais l'émission d'aujourd'hui ne porte pas sur la PMA.
Et les révisions des lois de bioéthique ne portaient pas normalement sur l'euthanasie non plus.
Non plus. Mais il y a eu cette allusion faite plusieurs fois et il serait pas question de revenir là-dessus. Pour l'instant, la loi est donc celle de 2016. Qui reprend d'ailleurs à 99% celle de 2005. C'est deux lois Leonetti, d'ailleurs, hein, c'est le même député à chaque fois.
Médecin.
De droite, ça mérite d'être dit, parce que souvent on croit que du fait que c'est révolutionnaire sur le plan culturel, c'est de gauche, mais il n'est pas de gauche. Ce qui ajoute aussi aux ambiguïtés, tout ça. Hein, il est tout à fait exact qu'il y a au moins trois choses qui sont très importantes pour ceux qui réclament l'euthanasie. Et trois aspects nobles, je fais exprès de les citer, parce qu'il n'est pas question de faire des polémiques là-dessus. C'est la souffrance, la liberté et la dignité. Pour la souffrance, on ne peut plus la supporter, le malade ne la supporte plus, l'entourage ne la supporte plus. Le malade est incurable, il faut arrêter. Est-ce qu'on n'est pas en train, là, d'assimiler l'euthanasie à un simple antalgique, simplement plus puissant que les autres? Et je pense que, quel que soit l'humaniste, qui croit ou qui ne croit pas en Dieu, tout le monde est bien d'accord que la mort, l'euthanasie, ne peut pas être un simple antalgique puissant. C'est quelque chose d'un autre ordre. La liberté. Oui, je décide librement de me donner la mort et j'ennuie personne, c'est ma liberté. Mais est-ce bien ma liberté? Parce que au moment où je suis en train de mourir, est-ce que j'ai toutes les facultés mentales, morales et intellectuelles pour en décider? Et si j'écris une lettre 10 ans avant, 10 ans, ça s'appelle les lettres d'anticipation prévues par la loi. Si j'écris « Vous me donnerez la mort si il en était besoin, si je souffre trop Cette lettre est-elle encore valable 10 ans après, quand le malade est cette fois-ci en situation? C'est pas pareil d'écrire une lettre sur son fauteuil et devant sa table avec le café à côté que de se trouver là. Et quant à la dignité aussi, de quelle dignité il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de la dignité qui est finalement simplement le fait de ne pas dépérir, le fait de ne pas régresser, ou bien est-ce la dignité selon laquelle un vieillard grabataire a autant de dignité que un jeune athlète, ou que un trisomique a la même dignité qu'Einstein? Alors, deux visions de la dignité totalement différentes qui font changer d'avis sur ce que peut être l'euthanasie.
Dans un article que vous m'avez transmis, vous avez ce propos vous avez ce mot à propos de la dignité. Vous dites: si la dignité n'est pas absolue, c'est la porte ouverte aux barbaries qui relativisent la dignité des hommes en degré supérieur ou inférieur. Est-ce que vous pourriez expliciter cela au regard de ce que vous venez de dire?
Oui, à partir du moment où je dis qu'on est, selon son état, plus ou moins digne. Par exemple, Monterland, qui se suicidera par euthanasie, parce qu'il pense qu'il est en train d'entrer en dégénérescence, et qui avertit 10, 15, 20 ans auparavant qu'il allait le faire. Il avait une très grande notoriété à l'époque, 20e siècle. Monterland dit je n'aurai plus de dignité quand je serai gâteux, quoi. Hein. Donc il y a des degrés de dignité. Il y a ceux qui sont dignes parce qu'ils sont pas gâteux, et puis pourquoi pas d'ailleurs des encore plus dignes parce qu'ils ont un QI énorme, des un peu moins dignes parce qu'ils ont un QI inférieur, et puis il pourrait y avoir aussi des dignes parce qu'ils sont très courageux, et des indignes parce qu'ils sont lâches. Enfin, on ouvre la porte à l'ère nazie, quoi. On ouvre la porte à l'homme soi-disant supérieur et autoproclamé, sur des critères qui sont des critères complètement aléatoires.
D'autant que là, Monterland, c'est une personne qui le faisait en pleine conscience.
Il a agi.
La question qui se pose aussi pour l'euthanasie, enfin, que tout le monde a en tête, c'est quand je ne peux plus, moi, faire valoir ma propre volonté.
Mais alors là, c'est même plus l'euthanasie, là, c'est carrément, à partir du moment où un autre intervient, c'est plus un suicide. Se suicider, c'est soi-même, là, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans le suicide assisté, qui est une façon élégante de dire meurtre, carrément. Hein, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui donne la mort.
Sauf que parfois, c'est moi qui le demande, alors que parfois, je ne demande rien.
C'est un meurtre demandé, mais on tombe dans le cas que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que le patient, dans l'état dans lequel il est en mesure de lucidement demander ce qu'il demande? Est-ce que même il n'est pas en train de prononcer un appel à être aimé? Moi, je te propose de me donner la mort, comment tu réagis? Si la personne amie dit « Ah ben oui, je veux le faire », il s'aperçoit qu'il n'est pas si désiré que ça, quoi. Hein, mais si au contraire...
On dit souvent ça des malades, comment dire, des grands malades qui, à un moment, ont l'impression de peser aussi sur leur entourage.
Voilà. Et à ce moment-là, donc c'est l'entourage qui devient sujet. C'est l'entourage qui devient cause, sans le vouloir. Hein. Je n'accuse pas l'entourage d'assassinat prémédité. J'ai parlé de meurtre tout à l'heure. Meurtre parce qu'il y a une personne qui donne la mort à quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas en train de condamner ces personnes. Elles endurent des choses extrêmement difficiles.
Mais Bernard Ribal, juste sur, par exemple, restons sur le suicide assisté, parce que l'euthanasie, peut-être ça, on en parle, mais on voit poindre maintenant donc des propositions pour légaliser le suicide assisté. Vous, donc, qui êtes philosophe, quelle lecture vous faites peut-être au regard de la première partie des développements que vous aviez faits sur les grandes philosophies qui traversent notre société française? Comment expliquer qu'on puisse parler aujourd'hui de suicide assisté et que ça apparaisse quelque part, ça puisse presque apparaître comme un acte de charité?
Oui.
Est-ce qu'il y a une lecture philosophique qui explique cette contradiction?
Effectivement, de plus en plus, hein, on voit apparaître cette notion de suicide assisté, encore que le plus grand nombre de suicides euthanasiques se passe à peu près lucidement et largement avant la mort naturelle. Mais il y en a où c'est à proximité de la mort, et donc la personne ne peut pas se suicider elle-même, et elle fait appel à une personne d'autre. C'est là, je crois, que nous sommes vraiment en devoir de nous poser la question, parce qu'il y a une ambiguïté sur le mot, la question de la dignité de l'homme. Est-ce que la dignité réside uniquement dans mon état de santé et dans ma bonne forme? Est-ce qu'il est relatif à ça? Est-ce que la dignité est relative à ça? Ou bien est-ce qu'elle est absolue? C'est-à-dire, quoi que je fasse et qui que je sois, il y a une dimension sacrée. Si cette dimension sacrée est oubliée, on l'a dit à l'instant, c'est la porte ouverte à la barbarie. Robespierre est surnommé l'incorruptible, et il est incorruptible. Il est le seul d'ailleurs, parce que tous ses copains-là sont des corrompus, Danton, Fabre d'Églantine. Il est l'incorruptible. Mais il va pourtant accomplir des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, parce qu'il fait abattre le simple suspect d'être contre la Révolution, guillotine. Qu'est-ce qu'il va engendrer? Est-ce qu'il va arriver à ses buts? Le but, c'était la liberté et la démocratie. Il a ni la liberté ni la démocratie, il a la terreur, parce qu'il a enfreint la dignité de la personne humaine. Lénine, pareil. Parce qu'il enfreint la dignité de la personne humaine, il aboutit à la catastrophe. Et Garaudy et Clavel, qui resteront d'extrême gauche et qui resteront marxistes sur le plan de la lutte des classes, quitteront le courant marxiste politique officiel, et avec éclat, les deux avec éclat, en disant « vous n'avez pas respecté la dignité de la personne humaine, et c'est pour ça que le marxisme est un échec ». Donc, regardons bien que enfreindre la dignité absolue de la personne humaine, c'est-à-dire considérer que sa valeur n'est pas relative à son état de santé...
C'est prendre un risque considérable.
Ah oui.
La loi que vous citez, donc la loi de 2016, qui renforce donc celle de 2005, loi Leonetti, prévoit, pardon, ça peut paraître un peu technique, mais en même temps, on lit ça souvent, voire enfin presque toutes les semaines dans la presse, donc ça vaut le coup quand même d'être au courant et de savoir mettre des mots, grâce à vous, sur ces situations, autorise ce qu'on appelle une sédation profonde et continue. Alors, quand on est, on va dire, le Pékin lambda, comme moi en tout cas, on se dit sédation profonde et continue. Ça ressemble en fait à de l'euthanasie, non? Quelle différence le législateur fait-il en la matière?
Effectivement, ça ressemble à l'euthanasie, mais même la loi de 2016, qui est la plus avancée que celle de 2005, fait une distinction explicite. Alors, explicite, oui, parce qu'il y a une volonté d'être explicite, mais est-ce qu'au bout du bout c'est explicite? Ça, c'est pas sûr.
Parce que la sédation, c'est l'acte d'injecter en fait une...
Voilà, par exemple de la morphine, hein, voilà, à forte dose.
Ou pour mourir.
Pour éviter de souffrir. Pour éviter de souffrir. Alors le but, la loi est très claire là-dessus, même celle de 2016, c'est uniquement dans le seul but d'alléger la souffrance.
Mais ça peut conduire jusqu'à la
mort. Mais c'est là où la loi change un peu les choses par rapport à ce qui se passait avant 2005. C'est que j'ai l'autorisation, moi, médecin, de prendre le risque que ça entraîne la mort. Mais le but ne doit pas être la mort. Le but doit être uniquement abréger les souffrances.
Mais donc c'est quand même une distinction capitale.
C'est une distinction capitale. Et j'insiste, la loi insiste là-dessus. Seulement, cette distinction, comme on le disait au début de l'émission, elle est extrêmement difficile à faire. Quoi, hein. Dans la tête du médecin et de l'entourage, comment se fait la différence claire entre... je vais alléger les souffrances en prenant le risque de la mort, et finalement, je vais donner la mort, parce que c'est l'antalgique absolue, quoi.
Pour finir, et ça introduira peut-être notre troisième partie, vous avez donc à propos de ces questions-là, toujours dans l'article, vous m'avez fait suivre, une porte, on va dire, ouverte vers une autre conception de la mort. Vous dites qu'en fait, l'erreur serait... de juger positivement comme une libération toutes les souffrances. L'erreur devant la mort est de la juger positivement comme libération de toute souffrance et négativement comme un néant. Et vous parlez de la mort aussi comme une sortie de soi. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que la mort, quelque part, c'est un moment où on ne s'appartient plus à soi-même, où il faudrait accepter en fait cela? C'est...
Moi, je crois que la mort est un moment privilégié de la vie. Alors, je ne l'ai jamais vécu, hein, sinon je ne serais pas là. Mais la mort est un moment privilégié pour des personnes qui pourraient avoir la chance d'être lucides. Parce qu'il y a aussi le problème qu'on peut ne plus être lucide au moment de sa mort. Mais parce que c'est la première occasion de la vie où vraiment je peux lâcher prise. Je suis tout le temps préoccupé par des tas de soucis, secondaires ou principaux. D'ailleurs, il n'y a que moi qui juge qui sont principaux et secondaires, d'autres les jugeraient autrement. Je suis accaparé par des désirs, par des soucis, par les soucis pour les autres, etc. Et je suis envahi par ça. Là, je peux me libérer. Et la mort est cette libération de tous ces soucis. Elle me met devant, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, elle me met devant l'être pour la mort. C'est-à-dire la dépouille. Je suis dépouillé de tout. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le don de soi. Et si la mort est le sortir de soi, hein, vraiment avec des majuscules, si la mort est le sortir de soi, alors il est l'instance préparatoire de ce don de soi qui est l'amour. Et par conséquent de la résurrection, hein, parce que l'amour, c'est pas une extinction de la vie, c'est une intensité de vie. Et cet amour peut s'exercer sans que j'ai besoin de parler aux personnes concernées, mais s'exerce à l'intérieur de moi-même, une sorte de libération et d'extase, pas au sens mystique, mais d'extase au sens de ex-sto. Je suis hors de moi vers l'autre.
Car le sortir de soi, qui est la proximité de la mort, est disponibilité totale au don de soi, à l'amour, lequel est précisément un sortir de soi. Je propose qu'on fasse une deuxième pause, et puis de toute façon on va y revenir, parce que vous avez donc une manière originale de nous faire entrer dans le mystère chrétien de la mort, par, on va dire, la porte de la vulnérabilité, comme on l'a vu à l'instant. On fait une deuxième pause et on vous retrouve pour cette émission qui s'annonce en fait plus gaie que son intitulé aurait pu l'annoncer, en tout cas plein de peut-être de potentialités de vie.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La mort a-t-elle du sens ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec Bernard Ribal, agrégé docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse. Comme promis dans cette dernière partie, donc une manière de parler de la mort et d'entrer en tout cas dans le mystère chrétien de la mort, ça serait donc la porte de la vulnérabilité. On y reviendra après, dans l'article qu'on m'avait fait suivre, en tout cas votre pensée, c'est évidemment, enfin celle de beaucoup aujourd'hui, hein, que la vulnérabilité, on va dire, n'est pas le terme, ni le concept, ni la réalité avec laquelle on a le plus de facilité aujourd'hui, même si sur une antenne comme celle de Radio Présence, c'est un peu différent des autres. Vous rappelez cette phrase, la course à l'être le plus performant du cimetière est vaine, et vous nous dites qu'à propos de la vulnérabilité, elle est donc une condition, commune à chaque être humain, mais qu'elle a son versant négatif et positif. Est-ce que vous pourriez peut-être nous commencer par son versant négatif ?
Écoutez, je suis le vice-président d'une association où il y a plus de 2000 salariés équivalents temps plein et qui est dans le secteur médico-social. Et la vulnérabilité, je la côtoie même comme professionnel, mais je la côtoie là. Et d'autant que je suis chargé d'évaluation. Et on voit bien qu'il y a deux faces de la vulnérabilité, une face très négative. Nous sommes en lutte contre la vulnérabilité. Notre devoir et de faire diminuer les risques de maladies mentales ou physiques, de faire reculer la vulnérabilité de l'homme. Et donc la vulnérabilité est négative. Mais en même temps...
Comprise au sens de la maladie, c'est ça ?
Comprise au sens de la maladie, de l'échec, de la souffrance. Et il y a l'autre phase que nous vivons tous, toutes les personnes qui s'occupent de ça. Et finalement... tout être humain, hein, parce qu'on a des malades dans sa famille, on sent bien que dans la vulnérabilité, il y a une très grande épaisseur humaine. Que par exemple, des gens qui ont vécu des souffrances difficiles ont très très souvent plus de...
d'humanité, comme on
dit. D'humanité, de sagesse, de recul, que quelqu'un qui court après ses succès de façon... apparente et superficielle.
Alors excusez-moi, vous citez à ce propos, je pense que ça intéressera, ça parlera à un certain nombre d'auditeurs, le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce film qui a eu beaucoup de succès en son temps ?
Oui, je crois qu'il est de 2000 et quelques.
2001, oui.
2001. C'est un film qui m'a beaucoup frappé, y compris sur le plan philosophique et sur le plan du vécu, quoi. Dans ce film, les gens s'en souviendront peut-être, les héros sont véritablement des anti-héros de la vie quotidienne. Ils sont tous très maladroits, très naïfs, très malades, mentalement et physiquement. Tous. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre de ce point de vue. Ils sont donc extrêmement vulnérables. Et dans ce film se dégage une humanité, ce que j'appelais tout à l'heure une épaisseur de vie, une densité bien plus grande que quand on nous montre un super-héros qui tire dans tous les coins pour défendre la veuve et l'orphelin, et qui est toujours invulnérable. On sent bien dans ce genre d'œuvre où se situe la dignité de la personne humaine. Elle est chez tout le monde, la dignité, mais elle est très visible dans la vulnérabilité.
Voilà, vous citez aussi « Des hommes et des dieux » en disant que c'est la conscience que l'on a de la vulnérabilité de ces héros qu'ont été donc les moines de Tibirine, qui fait aussi qui leur confère leur noblesse. Alors comment ne pas parler donc du mythe de l'invulnérabilité de l'homme contemporain, on en parle peut-être assez souvent, donc ça fait un peu peut-être tarte à la crème, mais vous expliquez, si j'ai bien compris, pour vous il y a une manière en fait d'entrer dans le mystère. La lecture chrétienne de la mort, je ne sais pas si le terme lecture est le plus approprié, c'est d'opposer justement la vulnérabilité à l'invulnérabilité. Expliquez-nous.
Oui, l'invulnérabilité est tellement à la mode qu'on parle aujourd'hui de transhumanisme. C'est-à-dire on deviendrait éternel et invulnérable. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Il y a quand même un mythe qu'on voit à la télévision, dans la publicité, chez les hommes politiques. Hein, s'ils n'arrivent pas à monter les escaliers deux par deux, ça ne va plus du tout. Le mythe de l'homme fort, équilibré, battant. Hein,
Il faut faire de la boxe pour être Premier ministre, c'est ça
c'est... Voilà. Quand il y a deux présidents se rencontrent, Trump et Macron, pour ne pas les nommer, c'est à celui qui tire la main la plus forte.
Qui la serre le plus fort.
Qui a gagné. Là. Tout ça est ridicule et faux. La vulnérabilité est universelle. La faiblesse, ce n'est pas universelle. En ce moment, je suis en pleine forme, mais je suis vulnérable. Je peux avoir un accident tout de suite en sortant du studio. Je suis très vulnérable, mais bon, en ce moment, là même, là, ça va, quoi, tout va bien. Je suis en pleine forme. Et il y a cette phrase de Peggy, si vous me permettez, cette phrase de Peggy, qui est un poète, écrivain français, très célèbre en son temps, à savoir le XXe siècle, Charles Peggy. Il est même encore un peu célèbre au XXIe. Hein. Charles Peggy, qui écrit dans un livre qui s'appelle Clio, qui écrit que les dieux grecs sont malheureux parce qu'ils sont immortels. Alors ça semble paradoxal, mais c'est vraiment l'entrée dans la foi chrétienne. Il était chrétien à sa façon, mais il était chrétien. Pourquoi les dieux grecs immortels sont malheureux? Parce qu'ils ne peuvent pas aimer. Aimer, c'est pouvoir risquer. Aimer, c'est pouvoir se donner. Aimer, c'est pouvoir se donner jusqu'au sacrifice. Et le dieu grec, parce qu'il est immortel, ne peut pas se donner. Le dieu chrétien, c'est sa grande originalité par rapport à tous les autres monothéismes, c'est que en tant qu'homme, il est mortel. En tant que dieu, nature divine, il est immortel. Mais en tant qu'homme, et il s'est fait homme, et il s'est fait homme dans la kénose, c'est-à-dire dans le renoncement à ses potentialités de pouvoir divin, il meurt réellement comme un homme sur la croix. Il ne meurt pas comme un dieu.
Attendez, là vous êtes en train de nous expliciter ce qu'est la foi chrétienne, mais à quel moment se fait le glissement quand vous dites que la vulnérabilité a introduit à la lecture chrétienne de la mort?
Parce que ça introduit la vulnérabilité.
C'est une vulnérabilité assumée, en fait, c'est ça?
La vulnérabilité assumée est la condition même de l'amour. Je ne peux pas aimer si je ne suis pas vulnérable, quoi. La vulnérabilité est la condition de l'amour. Et la condition de l'amour, c'est la condition même du salut. Ça va même très très loin, et les chrétiens n'en sont pas conscients, hein. On n'en a pas toujours conscience. Parce qu'il ferait bien d'écouter ce qu'ils chantent. Il y a un exultet dans la nuit pascale. C'est un terme de liturgie, exultet. Il y a un exultet qui dit « Heureuse était la faute, et il s'agit de la faute originelle, si je m'arrête là, je deviens hérétique et diabolique. Heureuse était la faute originelle. » Et c'est dit dans la messe pascale, nocturne. Heureuse était la faute qui nous valut un tel rédempteur. C'est-à-dire que la vulnérabilité qui est issue du péché originel, cette vulnérabilité est la condition même du bonheur.
Vous avez une autre expression, vous dites l'invulnérabilité prive du bonheur de l'amour.
Oui, le dieu grec invulnérable ne peut pas aimer.
Parce qu'en
il ne peut pas se donner.
C'est le lieu, en fait, quoi, d'appel d'air de l'amour, c'est ça, la vulnérabilité? C'est comme ça qu'on...
La vulnérabilité, c'est le fait que je peux me donner entièrement, totalement à quelqu'un d'autre jusqu'à en mourir. Aimer, c'est considérer ce qui est aimé comme la condition enthousiasmante. La condition de ma propre mort. L'amour et la mort sont toujours liés dans la littérature. Et quelle que soit même la chanson, l'amour et la mort sont toujours liés, c'est peut-être même le thème principal de la littérature. Et pourquoi? Parce que L'amour implique ce don de soi jusqu'à en mourir. Alors, je ne meurs pas chaque fois que j'aime, mais je suis en potentialité de pouvoir le faire si cela le demandait. Et cette potentialité d'aimer qui est au centre de la foi catholique, Dieu et amour, n'est possible que parce que l'homme est vulnérable. Il y a même un truc comique dans l'une des épîtres de Saint-Pierre, alors là je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, dans l'une des épîtres de Saint-Pierre, Saint-Pierre dit que les anges sont jaloux des hommes parce qu'ils ne connaissent pas la rédemption, parce qu'ils ne connaissent pas la vulnérabilité qui permet d'aimer et d'accomplir l'essentiel de la joie, du bonheur chrétien.
Alors Bernard Ribal, ce sera ma dernière question, parce qu'après il faut qu'on rende l'antenne. Si on essaie de reboucler l'émission, maintenant qu'on a entrevu que la vulnérabilité, ça serait donc le lieu ou presque la condition en fait
de l'amour,
et peut-être en tout cas le lieu de la révélation de l'amour. Je ne sais pas. Si, imaginons qu'on
fait la vulnérabilité, c'est synonyme de mortalité.
Qu'on fait l'émission à l'envers. Si cette conception de la mort était aujourd'hui plus répandue dans notre société, qu'est-ce que ça impliquerait comme bouleversement sociétaux ? Je ne sais pas. Puisqu'on a commencé par ça, par les autres philosophies et les bouleversements sociétaux.
Je crois que le bouleversement sociétal serait que la mort ne serait plus tabou. La mort est tabou dans un monde qui cherche la joie et le bonheur tout le temps et qui voit la mort comme véritablement le contraire de la joie et du bonheur. Et la mort est effacée. La mort est biffée, on la cache. Et on la cache de plus en plus. Avant, quand quelqu'un était mort, on mettait des grands draps noirs d'or à l'entrée, vous ne l'avez pas connu vous, à l'entrée de la maison.
Et on veillait les morts plusieurs jours.
Et on veillait les morts plusieurs jours. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de draps, il n'y a même pas un petit mot. De temps en temps encore, dans des pays de tradition, pas tous, il y a un cahier pour signer, mais c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'on cache la mort. Le bouleversement sociétal, si on allait dans le sens que nous avons développé ce matin, ce serait que la mort serait un événement triste parce que je ne verrai plus sur Terre la personne que j'aimais et qui s'en va. Mais ce serait plus la catastrophe parce que la mort est la possibilité même de la joie et donc de l'éternité. Je suis éternel parce que ma dignité est absolue et je suis éternel parce que l'amour et résurrection en lui-même, je le vis comme résurrection, je le vis comme intensité de vivre, je le vis pas comme extinction de vie.
Eh ben merci Bernard Ribal de nous avoir conduit dans cette balade philosophique, mais pas que. Un grand merci à vous pour cette émission très éclairante donc sur la mort autour de la Toussaint. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.